Laudetur Jesus Christus.
La présidentielle va-t-elle se dérouler dans le calme en Côte d'Ivoire? Le vote, c'est samedi. Hier, de nouvelles manifestations ont eu lieu, finissant en affrontement avec les forces de l'ordre. Sur place, les Ivoiriens se préparent. Reportage à suivre. Il y a quelques jours, le Soudan et Israël annonçaient normaliser leurs relations. Il faut maintenant s'atteler aux négociations concrètes. Et parmi elles, l'épineuse question des réfugiés soudanais. Ils sont plus de 6000 en Israël qui souhaiteraient les voir quitter le territoire. Dans ce journal, nous irons également au Bélarus, où une grève générale a débuté hier pour demander le départ du président Loukachenko. Puis aux États-Unis, la nouvelle juge de la Cour suprême a été approuvée par le Sénat. Il s'agit de la conservatrice Amy Coney Barrett. Les Américains qui votent dans une semaine pour élire leur président. Dans notre dossier en fin de journal, nous nous pencherons sur l'électorat catholique américain.
Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
Bonjour à tous. La Côte d'Ivoire retient son souffle à 4 jours de l'élection présidentielle. Hier, une manifestation des opposants à un troisième mandat d'Alassane Ouattara a été dispersée par la police à Abengourou dans l'Est. Les manifestants avaient érigé des barricades, ils ont été délogés à coups de gaz lacrymogènes. Les commerces de la ville ont fermé hier toute la journée. Heure également à Abidjan, dans le quartier d'Akwedo, entre policiers et manifestants. En Côte d'Ivoire, le climat politique est très tendu et depuis le mois d'août, une trentaine de personnes a été tuée lors de manifestations, dont 16 la semaine dernière à Dabou, à l'ouest d'Abidjan. 10 ans après la crise post-électorale qui avait fait 3000 morts, la crainte est grande de tomber à nouveau dans la violence. Les Ivoiriens se préparent et certains retrouvent leurs réflexes de crise. Provisions, retour au village et même confinement. Le reportage d'Amandine Réau.
J'ai rempli un peu le frigo. Bon, j'ai un petit frigo, mais j'ai quand même hier commandé, je pense, 3-4 poulet.
Ali est ivoirien d'origine libanaise. Sa famille, installée en Côte d'Ivoire depuis 3 générations, a traversé les crises. Il en garde des réflexes, comme faire des provisions pour faire face à une éventuelle pénurie.
15 envois de petits pois, 10 à 15 sachets de pâtes avec des farines. Un peu tout, quoi. Un peu tout et du riz. Il va falloir aussi stocker un peu parce que au cas où on est bloqué genre un mois, il va falloir avoir des provisions pour manger, quoi. On a déjà eu l'expérience ici, tout est fermé, tu peux pas trop circuler, t'as peur de circuler.
Les tensions politiques inquiètent aussi Jean, un habitant du quartier Anono. Lundi dernier, il a assisté à des affrontements entre des jeunes et des forces de l'ordre. Dans ces conditions, il évite de sortir de chez lui.
Quand on sort, à partir de 20h, on cherche à rentrer à la maison. On est toujours prêt à fermer les magasins, à fermer tout. Ça, c'est le quotidien maintenant, on se méfie.
Mais pour Jean, impossible de fuir Abidjan, comme certains commencent à le faire. Sa ville d'origine, Bongouanou, s'est embrasée il y a 10 jours, faisant au moins 3 morts. Amandine Réau, Abidjan, Radio Vatican.
La présidentielle approche également au Burkina Faso. Hier, les candidats se sont engagés à des élections apaisées. Ils ont signé un pacte de bonne conduite, promettant ainsi le respect mutuel et la courtoisie. Au Burkina, 13 candidats sont en lice pour le scrutin du 22 novembre. Dans un pays en proie aux violences djihadistes qui ont fait de plus de 1500 morts ces 5 dernières années. Et puis enfin, la situation toujours tendue en Guinée. Lundi dernier, les violences post-électorales ont fait 21 morts selon un nouveau bilan officiel. La médiation internationale se met en place après la réélection d'Alpha Condé. Hier à Conakry, l'appel à manifester contre le président n'a été que peu suivi. Nous n'avons pas cédé au chantage des Américains. C'est ce que déclare le général Bourhan, président du Conseil de transition au Soudan, critiqué après l'accord de normalisation signé avec Israël. Certains lui reprochent d'avoir trahi la cause palestinienne sous l'influence de Washington, qui la même semaine a retiré le Soudan de sa liste noire des pays soutenant le terrorisme. En tout cas, sur place au Soudan et en Israël, après l'annonce de la normalisation, les deux pays lancent des négociations sur l'épineuse question des réfugiés. Plus de 6000 demandeurs d'asile, la plupart venant du Darfour, vivent aujourd'hui en Israël et craignent l'expulsion. À Tel Aviv, Lucas de Villepin.
Jusqu'à ce jour, les quelques 6000 migrants soudanais vivant en Israël ne pouvaient pas être expulsés. L'État hébreu n'accorde le statut de réfugié qu'à très peu d'entre eux, mais la Cour suprême a plusieurs fois bloqué leur renvoi. pour des raisons humanitaires d'abord, mais aussi l'absence de relations diplomatiques avec le Soudan. Une situation qui s'apprête à changer à la lumière du tout récent rapprochement entre les deux pays. Plusieurs ministres israéliens affirment que Khartoum aurait déjà accepté le rapatriement de ces migrants. La majorité d'entre eux sont originaires du Darfour, une région ravagée par la guerre, et vivent aujourd'hui dans les quartiers populaires du sud de Tel Aviv. Beaucoup préféreraient rester en Israël et s'inquiètent d'un éventuel accord qui viserait à les expulser. En attendant des prochaines discussions, Benjamin Netanyahou a annoncé un geste envers Khartoum. Israël va envoyer 5 millions de dollars de blé au Soudan, le premier symbole du réchauffement des relations entre les deux pays. Lucas Deville, Tel Aviv, Radio Vatican.
Ne pas baisser les bras dans la lutte contre la pandémie, c'est l'appel hier du chef de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Alors que l'Europe semble traverser la deuxième vague, les mesures restrictives pleuvent, laissant parfois place à la colère. C'est le cas en Italie, par exemple. Des manifestations sporadiques ont eu lieu hier à Naples et à Turin. Et en France, c'est la crainte d'un nouveau confinement qui se dessine. Les ministres sont convoqués en conseil de défense ce matin, d'ici quelques minutes, et demain. C'est par centaines de milliers et à travers tout le pays que les Biélorusses ont répondu hier à l'appel de l'opposition. Ce premier jour de grève générale, rebaptisé Action des étudiants et des retraités, marquait la fin de l'ultimatum fixé à Alexandre Loukachenko pour qu'il quitte la présidence. À Moscou, Jean-Didier Revoin.
À Minsk, les usines électrotechniques de tracteurs et de roues de tracteurs ont débrayé, de même qu'une partie des employés du groupe d'hydrocarbures Belarusneft. Sur les réseaux sociaux, des images ont montré que des ouvriers ont refusé de prendre leur car. On les voit en effet agglutinés à l'entrée des bâtiments ou à l'intérieur, en train de défiler en file indienne entre différentes machines, mais se refusant à travailler. Le mouvement a également gagné le secteur privé. Nombre de centres médicaux, de bars, de restaurants, d'agences de voyage ou encore de salons de beauté ont gardé leurs portes closes. Un moyen pour eux d'afficher leur mécontentement envers les autorités. D'autres images ont montré les arrestations de manifestants pacifiques dans les rues de Minsk, alors que les étudiants manifestaient pour exprimer leur soutien aux travailleurs. Une mobilisation importante qui marque la soif de changement des Biélorusses et leur désapprobation des violences répression dont le mouvement de contestation est victime depuis la présidentielle controversée du mois d'août dernier. Les forces de l'ordre ont procédé à plusieurs centaines d'arrestations, poursuivant les manifestants jusque dans le métro, mais n'ont pas fait usage d'armes à feu, comme elles s'étaient engagées à le faire en cas de grave débordement. Jean-Didier Revoin, Moscou, pour Radio Vatican.
Nouveau coup de théâtre en Bolivie. Après les élections la semaine dernière, qui ont vu le candidat Dumas, le mouvement vers le socialisme, gagner haut la main, la justice abandonne les charges contre Evo Morales. Actuellement exilé en Argentine, l'ancien président va donc pouvoir revenir en Bolivie. En Amérique du Sud, toujours, les évêques du Chili se félicitent du vote massif lors du référendum pour une nouvelle constitution avant-hier. Ils invitent les fidèles à promouvoir dans la nouvelle charte fondamentale les valeurs chrétiennes essentielles à la vie. Les détails sur notre site internet. Aux États-Unis, pas de surprise, le Sénat a voté et confirmé la nomination de la juge Amy Coney Barrett à la Cour suprême. L'institution temple du droit américain bascule, et sans doute pour longtemps, du côté des conservateurs. Et Donald Trump a ainsi tenu sa promesse avec 3 juges nommés en 4 ans. C'est une immense victoire pour le président américain qui en avait bien besoin à une semaine de la présidentielle. À Washington, Loïc Loury.
52 votes contre 48, Amy Coney Barrett s'était écrit rejoint la Cour suprême. La juge ultra-conservatrice a prêté serment sans attendre à la Maison-Blanche avant de prendre la parole.
Le serment que je fais signifie par essence que je ferai mon travail indépendamment des politiques partisanes et de mes propres croyances.
C'est pourtant bien ce qu'espèrent les chrétiens évangéliques, notamment qui s'étaient rassemblés face à la Cour suprême. Ils comptent sur la juge Barrett pour obtenir une réduction drastique du droit à l'avortement, comme Spencer. Oui, je crois que ça pourrait se faire. C'est l'une des crises des droits humains les plus importantes de cette génération, le droit de tuer des bébés innocents parce qu'ils ne sont pas désirés. Et si c'est loin d'être fait, le motif d'inquiétude est réel pour Spencer, qui proteste déguisée en servante écarlate.
Les femmes vont perdre leur vie, piégées dans des relations dont elles ne peuvent sortir, forcées d'avoir des enfants contre leur gré ou de mourir en essayant d'avorter.
Le droit, la religion, mais surtout la politique pour Donald Trump, qui remobilise cette frange très croyante de sa base, un électeur sur 4 dont il ne pourra pas se passer pour être réélu. Washington, Loïc Loury, Radio Vatican.
En Californie, la saison des incendies continue. Un nouveau feu s'est déclaré hier matin dans la région de Los Angeles. Par précaution, 60 000 personnes ont été évacuées. Dans notre dossier ce matin, on reste aux États-Unis. Plus de 150 millions de citoyens américains doivent donc désigner dans exactement une semaine leur président pour les quatre années à venir. Parmi eux, environ 51 millions de catholiques. Un électorat sous-estimé, mais pourtant crucial dans certains États. Ce fut le cas par exemple dans ceux des Grands Lacs en 2016, où les catholiques ont fait pencher la balance en faveur de Donald Trump. Aujourd'hui, le président sortant et son rival Joe Biden essaient tous deux de se rallier le vote catholique. Le candidat démocrate n'hésite d'ailleurs pas à évoquer sa foi en public. Mais c'est surtout la question de l'avortement qui apparaît cruciale dans le choix du futur président, du moins aux yeux des électeurs. Des électeurs qui ne forment pas un tout homogène, avec par exemple les latino-américains et les blancs descendants de l'immigration européenne. Alors quelle tendance se dégage du vote des catholiques? L'éclairage d'Henrik Lindell, journaliste à la vie et spécialiste de la vie politique américaine.
Beaucoup disent que le vote catholique n'existe pas, puisque effectivement les catholiques votent essentiellement comme les Américains. Mais si on regarde bien comment ça se passe vraiment, on découvre vite qu'en fait les catholiques suivent quand même les tendances générales dans la société. Donc quand Obama a gagné les élections en 2008, une certaine majorité des catholiques ont voté pour Obama. Ils étaient moins nombreux en 2012. En 2016, Donald Trump a capté la majorité, une nette majorité des catholiques. Mais il n'avait pas capté une nette majorité des Américains. Donc il y a des tendances qui sont très intéressantes à étudier. Mais sinon, les catholiques sont exactement comme les Américains en général. C'est d'ailleurs une particularité. C'est pas vrai pour les évangéliques, par exemple, qui sont très nettement républicains.
Et est-ce que les catholiques qui ont voté pour Donald Trump en 2016 sont prêts à voter à nouveau pour lui en novembre?
Non, justement. Donc, comme ils suivent la tendance générale, qui est donc la suivante, Donald Trump aura probablement moins de votes cette année. Donc, les catholiques votent au moins à moitié pour Biden, ou à moitié pour Trump, si vous voulez. Quand on regarde les sondages, on découvre que Biden est beaucoup plus populaire chez les catholiques que Hillary Clinton. Et il va capter, selon la plupart des sondages, au moins la moitié des votes catholiques. Alors que Donald Trump, il nous dépasse rarement la moitié des catholiques quand on regarde les sondages. Or, il était parfois à 55-60% des votes chez les catholiques en 2016.
Cette plus grande popularité de Joe Biden par rapport à Hillary Clinton est-elle due à une foi catholique clairement assumée?
Oui, je pense qu'on peut dire que c'est lié au fait qu'il est catholique. Et en plus, lui, contrairement à Hillary Clinton, il met en avant sa foi. Il a compris que pour parler à ses compatriotes, il ne faut pas cacher sa foi. Or, Hillary Clinton en était même à refuser d'aller dans les églises. Et ça, c'est une question évidemment extrêmement importante. Par ailleurs, Biden, c'est un homme blanc qui vient de la Pennsylvanie. Et il y a beaucoup de blancs en Pennsylvanie qui sont catholiques, qui sont comme lui. Et il est issu de la classe moyenne, donc il ressemble à beaucoup d'Américains et à beaucoup d'Américains catholiques.
Qu'est-ce qui a pu provoquer ce glissement de l'électorat catholique de Trump vers Biden?
Beaucoup de catholiques sont déçus des comportements de Donald Trump, où ils veulent avoir un chef d'État qui soit respecté, respectable, qui se comporte comme il faut en public. En revanche, sur la question de l'avortement, qui est une question très clivante, même structurante dans la vie politique américaine, on découvre que les catholiques de droite, les catholiques républicains, ils sont massivement favorables à Donald Trump sur la question de l'avortement. Alors que chez les catholiques démocrates, ils sont massivement favorables à l'avortement et massivement pro-Biden, puisque Biden aussi est favorable au droit à l'avortement. La question de l'avortement, c'est une question qui est encore plus importante cette année qu'en 2016.
Alors la société américaine apparaît profondément fracturée dans le contexte actuel. Quelle est la place des églises dans cette crise?
Les églises sont un facteur d'unité. Les églises sont très actives quand il s'agit de combattre le racisme, par exemple. Même dans les églises marquées par les blancs, pour faire vite, par un certain conservatisme, elles se mobilisent massivement contre les divisions raciales en particulier. Joe Biden en particulier le sait, puisqu'il ne cesse d'ailleurs de se déplacer dans les églises, évidemment pour mobiliser les électeurs, mais aussi parce qu'il sait qu'il peut s'appuyer sur la force de la plupart de ces églises, qu'elles soient protestantes ou qu'il s'agisse de l'église catholique.
Voilà, interrogé par Adélaïde Patrignani, le journaliste à l'hebdomadaire La Vie, Eric Lindel, était ce matin l'invité de Radio Vatican. Merci de nous avoir suivis. Le prochain retour de l'information, c'est tout à l'heure à 13h. Je vous souhaite une très belle journée.